Le mercredi balado diffusion chez Simplement Plein Air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement Plein Air, de la balado diffusion à son meilleur. Bienvenue à l'expérience audio Simplement Plein Air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Tout le monde aime le camping. Le réveil matin remplacé par le chant des oiseaux. Les après-midi au bout du quai, les pieds dans l'eau, les soirées partagées autour du feu. Les maringouins, le poêle au propane qui démarre pas, la tente qui fuit, le matelas qui dégonfle, l'eau trop froide. OK, on peut rien faire pour l'eau trop froide. Mais pour le reste, il y a ProNature, Rouyn-Noranda.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on rêve du Grand Nord, on rêve de déconfinement, on rêve de grands espaces. Mais le tout a comme un prix, hein, parce qu'on sait que les entreprises ont besoin de beaucoup de réorganisation. Ça, on le sait. Plusieurs s'en sortent, mais plusieurs le font plus au ralenti. Et les grosses corporations, des fois, c'est plus difficile. Donc, pour en parler, vous le savez, on a un chroniqueur du Nord, en la personne de M. Sylvain Paquin, qui est photographe animalier, propriétaire, justement, de Animal Paquin. Et puis, c'est ça, c'est une entreprise qui dépend sur le tourisme dans le Nord, et il y a certaines fermetures, des fois, qui peuvent être peut-être mal interprétées, ou on va dans le Nord pour une chose, mais on ne devrait pas y aller juste pour une chose. On devrait y aller pour l'ensemble de ce que le Nord a à nous offrir. On va en parler avec Sylvain. Salut Sylvain.
Salut Guy.
Ouais, comme je disais, tu sais, c'est sûr que là, pour les gens qui ne savent pas, je vais juste parler de la fermeture des visites chez Hydro-Québec. Mais écoute, tu vas nous l'expliquer sous un autre angle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme en disant « Ah, ben c'est Hydro-Québec, les visites sont fermées, tout est fermé. » C'est pas le cas, là.
Ah non, non. Je veux dire, restaurants ouverts, les hôtels sont ouverts, l'épicerie est ouverte, les stations de gaz sont ouvertes, l'accès au territoire est ouvert depuis le début... Le début du mois de juin, quand il y a quoi, c'est le 9 juin, quand ils ont ouvert tout ça. Sauf que COVID veut dire travailleurs, c'est travailleurs du Sud, donc Hydro-Québec ont fermé depuis le mois de mars les visites des différentes centrales, ce qui est parfaitement normal aussi. L'avenue des travailleurs après le déconfinement, ben là, il y a beaucoup de travailleurs du Sud, Hydro-Québec, qui sont à 100% travailleurs, si je me trompe pas. Donc, ça fait beaucoup de gens dans différentes centrales et ils ont pris la décision de pas ouvrir à partir du 4 parce que techniquement, les visites d'accueil et visites des centrales devaient ouvrir demain le 4, mais la semaine dernière, ils ont pris une décision de ne pas ouvrir. Donc, la plupart de mes clients et les clients d'autres fois des hôtels, des trucs comme ça, qui avaient déjà réservé pour le mois de 12 septembre, ben ils sont fait téléphoner. Puis ils sont fait dire, ben on s'excuse, toutes les installations à Radisson sont fermées, pas de visite des centrales. Et ben j'ai eu vendredi passé 5 annulations me disant tout est fermé, vous êtes ouvert, mais tout est fermé, donc on monte pas. oui, tout est fermé. Tout est fermé au niveau des centrales hydroélectriques, mais tout le reste est ouvert. Et oui, les communautés cries sont fermées, c'est correct. Mais je veux dire, quand même, t'as la pêche, t'as la randonnée pédestre, t'as l'observation comme les perséides qui arrivent dans les alentours du 10-11. T'as quand même les aurores boréales, t'as les animaux, les champignons, t'as des labradors, les petits fruits. Donc, oui, les installations sont fermées, mais c'est les installations d'Hydro-Québec. Fait que c'est un petit problème probablement qui va probablement se régler aujourd'hui, parce que moi, quand j'ai eu mes téléphones puis mes courriels me disant, ben là, tout est fermé en haut, tout est fermé, il n'y a pas de visite, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Quand je rappelle mon monde, je leur dis, ben oui, vous pouvez faire les visites extérieures, oui, moi je suis ouvert, oui, les hôtels c'est ouvert. Ils me disent, ouais, mais on avait l'impression que tout était fermé, fait qu'on a annulé, on a tout annulé, fait que ça a un impact sur les différents hébergements à Radisson, à Matagami, sur moi. J'ai perdu en tout et partout. J'avais dimanche matin, 11 annulations. C'est 25 personnes. Donc, je peux te dire que ça me rentre dans le dash pas à peu près, là. Mois de juillet, j'ai rien eu. Moi, j'ai pas de clients depuis le mois de mars, là. Fait que c'est un peu compliqué. Puis avec En Marche du Monde qui arrête pas d'être mis à l'horaire à TV5, il y a paquet de monde depuis le mois de mars qui devait venir. Fait que ça a un impact écœurant. Puis là, en plus de se faire dire que tout est fermé, non, je te dirais que je la trouve pas vraiment drôle, mais je comprends qu'Hydro-Québec, la sécurité des travailleurs, ça, je suis parfaitement conscient. Sauf que peut-être un réajustement dans dire aux gens que les installations sont fermées. Oui, Hydro-Québec, pas Radisson.
Ouais, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que Hydro-Québec est enfermé, mais ça, c'est la visite de leur installation intérieure. De l'extérieur, tu peux quand même voir les barrages et puis tout ça, là.
Ah ben oui, absolument. Le circuit, aller voir les différents parcs, le gros belvédère où ce que tu vois 360 degrés, aller voir l'évacuateur de crue. C'est sûr et certain que le port du masque, comme moi j'ai mon protocole au niveau de la COVID, je veux dire, tu sais, oui, le masque, il faut que tu le portes au dépanneur, faut que tu le portes dans les endroits clos comme à Montréal, comme partout, mais je veux dire, à l'extérieur comme tel, tout est accessible.
C'est ça. Donc,
tu peux aller pêcher, tu peux aller voir les centrales extérieures, oui.
Ben oui, puis moi je dirais que, en tout cas, pour moi, là, quand t'as vu une centrale, t'es tout vu, là, parce que c'est tout le même fonctionnement. C'est OK, bon, on peut les voir, là, mais l'extérieur est beaucoup plus grandiose que les intérieurs, là.
Ah ben oui, absolument, parce que tu sais, quand tu te mets à penser que dans l'ancien lit de la rivière La Grande, la digue principale qui coupe, qui a comme fait monter l'eau dans le réservoir, quand tu dis que dans le fond de la rivière La Grande, ben tu peux mettre la place Ville-Marie à Montréal et la digue est un petit peu plus haute que la place Ville-Marie. Je veux dire, l'escalier de géant, écoute, c'est hallucinant comment c'est gros. Puis tu sais, souvent on les amène au belvédère où ce que tu vois l'évacuateur de crue, la digue principale. Quand je dis aux gens, tu vois là sur le dessus, on s'en va là, on est à 2 kilomètres. Les gens me disent, ben voyons donc, 2 kilomètres. Oui, 2 kilomètres. Je veux dire, c'est plus grand, c'est le génie québécois, c'est nos bâtisseurs. Mais tu sais, visite de centrale, c'est une chose, mais visite extérieure, ça en est une autre, puis beaucoup plus spectaculaire.
Oui, puis d'autant plus que ils peuvent se taper une visite. À quel endroit? C'est sûr que c'est pas garanti, là, c'est des animaux sauvages, mais à quel endroit où est-ce que tu peux faire l'observation en pleine nature, pas dans un parc ni dans un zoo, en pleine nature d'animaux sauvages tels que l'ours, tels que le loup, et puis sans compter les petits renards, sans compter les autres petits animaux qu'on peut voir là, on the side, si tu me permets l'expression, mais ça en soi-même, c'est unique.
Ah, absolument. Absolument d'accord. Regarde, j'ai passé le week-end à appeler tous mes clients jusqu'au mois d'octobre. pour leur demander, écoutez, on est ouvert, Radisson est ouvert, puis les gens, la plupart m'ont dit, regarde Sylvain, oui, on a eu des coups de téléphone, sauf que, tu sais, nous, on monte pas pour aller voir les centrales, on n'a rien comme ça, on n'a rien contre ça d'aller faire une visite extérieure, mais nous, ce qui nous importe, c'est la nature, les grands espaces, on a été confinés pendant 3 mois, oui. On veut pas aller dans une centrale avec un masque, ce qu'on veut, c'est voir la nature.
C'est ça.
Mais ça reste quand même que j'ai eu des annulations, j'ai eu un impact, puis je suis pas le seul. Sauf que je crois que il va falloir faire le post-mortem de tout ça, puis dire, ben écoute, c'est comme je dis tout le temps, il y a eu un avant Hydro-Québec, il y a eu un pendant Hydro-Québec, puis là, ben avec ce qui se passe présentement, je crois que ça serait le temps de s'asseoir tout le monde ensemble de l'industrie touristique et de penser à un après Hydro-Québec. Parce que Hydro, les centrales, pour nous, l'industrie touristique, c'est un phare qui rayonne. Les gens viennent pour voir le génie québécois, viennent pour voir ce qui a été réalisé, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, je crois que ça va valoir la peine de s'asseoir tout le monde ensemble et de penser à un après, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Avec le COVID puis tout ce qui se passe présentement, pas sûr qu'il va en avoir l'année prochaine, les visites. Je veux pas parler pour Hydro-Québec, je veux pas résumer de rien, mais en tant qu'industrie, l'impact que ça a présentement, faut penser à si des fois il n'y en aurait pas, faut pas être à la remorque d'Hydro-Québec, parce que c'est facile de les critiquer, mais c'est dur de critiquer des entreprises qui veulent protéger leurs travailleurs et leurs sous-traitants.
Oui, non, moi, absolument. Je le comprends. Ah, écoute, Sylvain, on est rendu déjà à la fin de la chronique, ça va trop vite. Si tu nous donnerais tes informations pour qu'on puisse te rejoindre si on a besoin, justement, parce que c'est comme tu le dis là, tu peux organiser des journées, tout est là, tout est en place, la sécurité est là. On le fait de quelle façon, Sylvain?
Manière la plus simple, www.animalpaquin.info. Juste une petite recherche avec Google, Animal Paquin, vous allez trouver tous mes trucs et on est ouvert. Les champignons commencent à sortir, les plantes, écoute, c'est le plus beau temps de la saison.
Ben oui, tout est au rendez-vous. Ben oui, puis en plus de ça, écoutez, contactez Sylvain parce qu'une journée là-bas, là, vous allez, c'est à couper le souffle. C'est littéralement à couper le souffle. Donc nous, on rejoint Sylvain naturellement la semaine prochaine. Salut Sylvain, bonne semaine.
Ouais, bonne semaine.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
Un commercial simplement plein air.
Bonjour tout le monde, ici Kevin Plante-Germain du podcast L'Âge de bière. Je suis aujourd'hui avec vous chez Simplement plein air pour vous parler de bière. Bière de microbrasserie. J'espère que vous allez bien dans vos coins de la province ou du pays. Aujourd'hui, je vous parle d'une bière qui m'a charmé quand même assez rapidement, que je connais depuis quelques temps. Mais qui est quand même assez difficile à avoir dans certaines régions du Québec, dont où je vis, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il s'agit de la bière La Los Tabarnacos de la brasserie Bas-Canada de Gatineau. Donc, c'est une brasserie qui a une distribution assez limitée en frais de région où elle distribue ses bières. Là où on est capable de l'avoir le plus facilement, c'est si on se présente directement là-bas. Alors, dernièrement, ils sont venus à Jonquière. Il y a eu un tap takeover à la brasserie Opéra, auquel j'ai pu goûter à différents de leurs produits. Puis, ils ont eu l'aimable gentillesse de déposer des canettes dans notre DBSQ local. Et c'est là que j'ai été capable de m'en procurer, dont la Los Tabarnacos, qui est une milkshake IPA. Donc, une IPA qui est enrichie de lactose. Donc, ça donne un profil généralement qui va être beaucoup plus crémeux, beaucoup plus onctueux. Fait que c'est quelque chose de quand même intéressant qui est en vague depuis, je dirais, les 5 dernières années. Des ajouts de lactose dans les bières, c'est rendu maintenant quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Ça va généralement donner des petits arômes vanillés. On va avoir l'impression peut-être même de sorbet, des choses comme ça. des saveurs dans le même genre. Donc, la Los Tabarnacos, donc évidemment qui est du style un peu, on comprend la référence mexicaine de l'espagnol. En tout cas, je pense que vous comprenez un peu ce que ça veut dire. J'ai pas besoin de traduire. La Los Tabarnacos, c'est une bière qui est houblonnée avec les houblons Citra et Mosaïque. On y a ajouté aussi dans cette version une quantité surprenante de mangue et de noix de coco grillées. Donc, elle fait 6,5% d'alcool. Et on peut remarquer sa canette quand même assez facilement avec son rose flash, avec des taches qui semblent être la carte, en fait, ou le secteur des Grands Lacs. C'est ce que j'en ai conclu parce que, bon, Gatineau, Hall, Ottawa, on est dans ces secteurs-là. Donc, c'est un peu en l'honneur de ça, du moins, je pense. C'est une canette de 473 millilitres. Comme j'ai dit, elle est difficile à obtenir dans la majorité des endroits au Québec. Mais si jamais vous avez l'occasion d'en avoir dans votre région, posez pas trop de questions. Puis, Bas-Canada, procurez-vous-en, dis-je, aussi rapidement que possible. Parce que souvent, c'est en quantité très limitée. Alors, notre Los Tabarnacos, quand on la verse dans le verre, elle a une robe bien jaune. Elle est très juteuse, easy, opaque. Ça semble, on dirait un jus d'orange, un jus de fruits finalement. La mousse, elle est blanche aux bulles moyennes. La mousse ne monte pas très haut dans le verre et finit par s'estomper quand même assez rapidement. On voit pas ou très peu d'activité effervescente à l'intérieur du verre, dû à son opacité et sa turbidité. Quand on la porte au nez, c'est une bière qui a un parfum très explosif, donc ça sent très fort le tropical. On a évidemment des odeurs de mangue, des odeurs même de banane et de fruits de la passion, et même aussi de vanille là, qui est apportée par la présence du lactose. Une fois en bouche, c'est une bière qui est soyeuse et crémeuse. Les houblons apportent des fortes notes agrumées et fruitées. On goûte le fruit de la passion, les agrumes. Il y a un ester de banane qui est généré par toute cette belle recette-là. La mangue prend une place vraiment de choix dans l'ensemble de ces saveurs-là, évidemment. En arrière-plan, un peu en fin de bouche, là, on peut déceler les notes de noix de coco qui sont rehaussés surtout par la présence de lactose. Donc, on a vraiment une impression de lait de coco qui nous revient en fin de bouche. Ça fait penser un peu, même, j'oserais dire, à une pina colada avec le petit côté fruité que ça nous apporte. La finale est d'une amertume qui est modérée et résineuse légère. Donc, c'est pas très punchant comme IPA, c'est surtout plus onctueux et fruité. Verdict, diagnostic, pronostic, c'est une excellente IPA, super bien fruitée, elle est bien ronde. On se trompe rarement avec Bas-Canada, puis la Los Tabarnacos, c'est vraiment un classique de chez eux. Celle-ci, c'est pas la version originale, ils ont fait quelques versions entre-temps. Ça, c'est la version vraiment mangue et noix de coco. C'est une valeur sûre, c'est très go-to, là, si je pouvais en avoir plus régulièrement. Je dois avouer que je m'y prêterais plus souvent. C'est bon, j'en prendrai encore. C'est une bière qui est ronde. Il faut aimer les bières sucrées. Il faut aimer les bières qui vont avoir un bon corps. Il faut aimer les bières sucrées. Il faut aimer aussi les bières amères parce que l'amertume y est quand même pour quelque chose. Si jamais vous passez à Gatineau, je vous recommande de goûter en fait aux bières de Brasserie Bas-Canada. Il y a la célèbre série IPA, H-I-P-A. Qui ce sont des IPA américaines de Brasserie Bas-Canada. Il y en a, je pense, 12 différentes. Là, ils sont tous numérotés là, de 1 à 12 en chiffre romain sur la canette. Ce sont tous d'excellentes IPA également. Si je peux vous recommander aussi dans quelque chose d'un peu plus robuste chez Bas-Canada, si vous avez la chance de mettre la main sur la Mirage, qui est une double IPA, que j'ai aussi dégusté dernièrement, que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle est super douce, elle est super fruitée, elle est pas trop amère, elle est bien ronde, bien goûteuse, bien fruitée, ça goûte le houblon, la texture, elle est sublime. Donc, c'est une autre recommandation. Puis, si vous aimez les bières noires, puis vous avez la chance de mettre la main sur la Diez, qui est une bière généralement vendue en format 750 ml. C'est un pastry stout, donc un stout dessert. Une bière qui goûte le gâteau, littéralement. Beaucoup de vanille, beaucoup de chocolat, beaucoup de noix de coco, beaucoup de tout ça. Ça fait des bières très, très noires, très rondes, très sucrées. C'est littéralement là, des gâteaux liquides. Donc, c'est tout pour Bas-Canada. Je vous rappelle que je suis membre et co-animateur du podcast L'Âge de bière, dans lequel nous dégustons plusieurs bières de microbrasserie et aussi de bières commerciales dans une ambiance très conviviale. On jase un peu de tout avec mes amis Phil et RF et on reçoit souvent des invités. Donc, on vous invite à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. On est disponible sur Facebook, Twitter, tous les balado-diffuseurs classiques conventionnels. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous allons discuter, nous allons déguster une bière du trèfle noir. On retourne à Rouyn-Noranda, ma ville natale, et je vous en dis pas plus, mais on reste dans la thématique estivale. Donc, on y va avec le trèfle noir la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Elle a décidé de partager son plaisir de Compostelle et d'instaurer un rituel avec ses enfants. On en parle aujourd'hui. Ici Pascal Auger, salut les passionnés. Journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié de Québec Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, c'est-à-dire le phare de Cap-Gaspé. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Céline Anaya Gauthier. Elle est tout près de Paris et elle va nous parler de ce rituel qu'elle a instauré finalement avec ses enfants, dont son premier s'appelle Santiago, un petit peu influencé par les chemins de Compostelle. Bienvenue à notre rando-rencontre que vous écoutez peut-être en direct à la radio, à votre radio préférée à présentement, ou encore disponible en rediffusion via le podcast, ou encore en vidéo par la chaîne YouTube. On est là pour échanger sur la rando, s'informer, se préparer, le matériel, les chemins, comment marcher sur le chemin du Québec, Compostelle également, et puis les circuits québécois. Et si vous voulez voir, témoigner un peu, voir de quoi ça a l'air, cette semaine, j'ai mis quelques vidéos témoignage en quelque sorte de quand on est allé faire un tour sur le chemin du Québec il y a quelques semaines dans le secteur variante nord entre Sainte-Anne-de-Beaupré et Port-au-Percy. Donc dans Charlevoix, on monte, on descend. Et une nuit d'ailleurs de rando pour le solstice d'été, donc la nuit où l'été est arrivé. On a passé de 8 heures le soir jusqu'à 5 heures le lendemain matin à marcher et voir le soleil, voir le jour se coucher et voir le jour se lever. C'était fantastique. Allez voir, il y a plein de vidéos comme ça qui se promènent sur les médias sociaux, sur abonnez-vous à moi, Pascal Auger, pour en savoir davantage. Bon, aujourd'hui, on s'en va en banlieue de Paris, parler avec Céline et comme d'habitude, elle nous présente et elle a un beau vécu encore une fois.
Alors, je suis franco-péruvienne, je suis née en France, mais à l'âge de 6 ans, je suis partie vivre au Pérou et j'ai vécu 20 ans là-bas. Et j'ai grandi, mes grands-parents français sont de la campagne, d'Aubigny-sur-Nère, qui est un tout petit village d'origine où il y avait beaucoup d'Écossais, et ma famille du Pérou vient des Andes. Donc j'ai grandi entre la banlieue parisienne, la campagne française, les Andes, Lima, la jungle, et voilà, et j'ai toujours marché, j'ai toujours en fait, depuis que j'ai usage de ma raison, je me souviens d'avoir marché, que ce soit en France, au Pérou, dans les Andes, dans la jungle. Donc voilà, et je suis photographe professionnelle. J'ai une première carrière, on va dire, d'hôtesse de l'air. J'ai été hôtesse de l'air pendant 4 ans, en France et en Amérique du Sud. Et après ça, j'ai, on va dire, eu un petit pétage de plomb de jeunesse où je me suis rasé la tête, j'ai tout laissé tomber et je suis partie faire du sac à dos au Brésil, j'ai traversé l'Amazonie et pendant un an, j'ai baroudé entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et après, j'ai décidé, la vie a fait que je me lance dans la photo. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans. 43, oui, 43. Je vais avoir 44 ans. Et voilà, je suis une photographe marcheuse qui va à la rencontre des autres êtres humains.
Son premier chemin, c'était il y a environ une vingtaine d'années. Elle était tellement mal équipée. C'est ça qui arrive quand on part tout croche, hein? Et c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui avec nos formations et nos conférences, mais on en rit un peu 20 ans plus tard.
Quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, le jour d'après, je pars sans eau, sans pain, sans rien. Je me suis dit...
Très naïve, hein?
On retrouve en plus le passage des Pyrénées. Et il y avait de la brume, je ne voyais rien, j'entendais que les vaches, j'entendais les chevaux et tout, mais c'était l'horreur, quoi. Et heureusement pour moi, mais ça, là, maintenant que je connais Compostelle, je sais que le chemin te donne ce dont tu as toujours besoin. Il y avait deux petits jeunes portugais qui étaient des boy scouts. Et donc, du coup, ils étaient des scouts. Donc, eux, ils avaient tout. Hein. Ils avaient le réchaud, la soupe, laisse tomber, quoi. Et donc, du coup, ils m'ont sauvé la vie parce que ils m'ont donné à manger, ils m'ont accompagné. Et voilà, dès le premier jour, j'ai eu ce qu'on voit sur tout le chemin, c'est cette fraternité, ce partage.
Écoute, quand c'est des scouts qui prennent soin de toi, là, c'est parce que t'es mal parti. Mais, justement, ça lui a permis de voir cette fraternité, comme elle vous mentionne, cette entraide, la bienveillance sur place. Et son chemin qui était un peu difficile au départ est devenu un émerveillement.
Ah non, alors la première fois que je l'ai fait, j'étais tellement émerveillée. J'étais tellement... C'est pour moi moi qui étais hôtesse de l'air, qui ai voyagé vraiment de par le monde et tout ça, Compostelle a quelque chose qu'il n'y a vraiment nulle part ailleurs. Quoi. C'est, je pense qu'il porte les pas de des millions de pèlerins qui sont passés par là et mon premier chemin est un chemin de partage, de joie, d'amour. J'ai jamais à aucun moment dit j'abandonne. C'est dans d'autres chemins après, plus tard, où j'avais laissé mes enfants pour aller marcher, où j'étais pas dedans, parce que je l'ai fait de Paris aussi, je suis partie de la porte de chez moi jusqu'à Compostelle. Finalement, le chemin, c'est à un moment donné où tu dois être prêt dans ta tête à vivre l'instant présent.
C'est un peu ça aussi les formations que l'on fait, les conférences, hein? C'est d'aider les gens à se mettre dans le rythme moment présent. Parce qu'on part d'ici tout excité et tout, puis là, on continue avec notre espèce de beat, notre rituel rapide là-bas. Non, 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 c'est pas comme ça. On ralentit, on vit le moment présent, on vit la contemplation, et ça donne que du bonheur, comme nous le témoigne Céline.
La marche, c'est la voie du cœur, puisque le battement un pas est un battement du cœur, et que l'homme, avec la modernité, a oublié d'être à son propre rythme. Et qu'à force de vouloir aller trop vite, à force de vouloir être productif, à force de vouloir gagner, de vouloir, enfin, c'est la société qui nous mène à ça. On oublie quand même que la vie est une aventure, est un jeu à ciel ouvert et qu'il faut jouer et que partir marcher, ça nous permet de revenir à notre temps et de se poser les questions de qui je suis. Où je veux aller, parce qu'une fois qu'on sera mort, ce sera terminé. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Et moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Dans la vie, il y a deux choses qu'on maîtrise pas, c'est la naissance et la mort. Au milieu, c'est open bar. Donc, soit vous restez au bord de la route et vous attendez que la mort arrive, soit vous allez, vous marchez, vous découvrez. Et de toute façon, il n'y a aucun enjeu, parce que quoi qu'il arrive, on va tous mourir. Donc, jouons, marchons et vivons.
Un message tout simple et pourtant... Quoi? 50, 60, 75% des gens vont passer à côté. Et toi, quand vas-tu prendre soin de toi pour te faire du bien finalement? Juste marcher, prendre de l'air, rando communautaire au Québec, Compostelle. Ça te tente d'en savoir davantage sur comment ça marche la rando on est là pour ça. Ça s'appelle Québec Compostelle. Donc, il y a des formations, puis il y a des... tu peux devenir membre. D'ailleurs, c'est l'idéal de devenir membre avec Québec Compostelle. Lorsqu'au départ, on donne une formation complète de 6 heures. Tu peux venir à des rando gratuitement. Tu as plein d'autres entrevues, reportages avec des gens de partout à travers le monde qui vont t'expliquer ce plaisir-là. Et peut-être par la suite, ça te tentera de venir faire une formation en personne à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Lieu-Noix week-end de formation rando. Et pourquoi pas après faire des rando séjours d'une semaine pour un jour partir par toi-même un 2, 3, 4 semaines, mois, et te faire plaisir. Va faire un tour sur le site Internet. Trouve ton atelier, trouve ton chemin. Vois le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
En commercial, simplement plein air.
Qui dit champignon dit cueillette, mais des fois on cueille un tout petit peu plus qu'on en voudrait. Mais on se dit, ben non, mais là on les a cueillis, on les jettera pas. On jettera pas ça, on va les conserver. Ben justement, pour les conserver, ben il faut savoir comment. Et pour savoir comment, ben on va aller en discuter avec notre chroniqueur, M. Roger Larivière, qui est auteur, conférencier, éditeur avec une maison d'édition. Ah ouais, éditeur avec une maison d'édition, ça se prête bien. C'est bien, il s'agit de M. Roger Larivière. Oui, bonjour M. Larivière.
Oui, bon matin et bon lundi.
Oui.
Bon mercredi, bon jeudi. On est présent tous les jours de la semaine pour parler des champignons.
Absolument. Et puis, comme je disais en préambule, c'est ça, hein. C'est des fois, on aime ça, avoir quelques réserves pour se souvenir d'une belle cueillette, d'une saveur peu ordinaire, parce que le champignon sauvage, on sait que c'est tellement bon. C'est pas, c'est, j'ai rien contre les champignons normaux, là, les champignons de commerce, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et puis, c'est tellement le fun de faire un bon petit potage, des choses comme ça. Et un champignon, je devrais dire, qui s'y prête bien à la conservation, puis qu'on aime bien avoir sous la main quand on cuisine, c'est la chanterelle.
Et oui, c'est, on va le répéter, je ne sais pas combien de fois, et on va l'écrire, la chanterelle, qui est en fait un ramassis d'une quinzaine d'espèces différentes, là. Pour les grands mycologues, c'est l'espèce la plus consommée au monde.
Ah, c'est quelque chose quand même, hein, étant l'espèce. Ouais. Oui. Moi, j'aurais toujours cru que c'était les cèpes, les bolets, là. Mais non, c'est la chanterelle.
Non, la chanterelle. Puis, surprenamment, cette espèce-là, et à chaque fois que je suis dans le bois, puis j'en cueille de ce temps-là, parce qu'il y en a, il y en a en tout cas en forêt boréale, il y en a beaucoup comparativement au sud du Québec où il y a eu un manque terrible d'eau.
Ouais.
Cette espèce-là est très visible de loin, et je me demande tout le temps quand je la regarde, je dis tabarnouche, cette espèce-là n'a pas trouvé le moyen, comme certaines autres espèces, de se cacher, de se rendre à son point où elle va produire des spores, donc se reproduire, mais elle est très visible. Et de loin, c'est un petit peu comme des lumières qui brillent puis qui nous invitent à les cueillir.
Oh oui, ça, j'aime l'expression. J'aimerais bien que les lumières s'allument dans ce coin-ci, là, dans le sud, en Gaspésie, parce que j'ai été justement en fin de semaine faire un tour. Pas moyen d'en trouver, malgré, comme vous l'avez bien dit, on a vécu une période de sécheresse assez longue, admettons. Et puis, mais là, on a de la pluie. Fait que là, on va se croiser les doigts et les doigts d'orteil. Sinon, on va être obligé de se fier à des amis. Et puis, on va être obligé d'enquêter un peu pour passer l'hiver.
Ben, c'est bien sûr. Et quand on a, comme vous l'avez bien dit, au début de la chronique, quand on cueille des chanterelles, habituellement, on arrive dans des talles et on vient fourrette, là, ça c'est bien sûr, parce qu'on voit ces petites lumières jaune-orange qui allument tout le temps. Et puis, moi, je sais très bien que quand je cueille des chanterelles, je n'ai pas tout le temps l'œil sur la chanterelle que je cueille. J'ai l'œil un petit peu plus loin et je fais 380 degrés quasiment pour voir ailleurs s'il n'y en aurait pas à cueillir. Et on en cueille, puis on se pose tout le temps la question, qu'est-ce qu'on va faire avec après? Et quand c'est on ça. Arrive à la maison, ben moi, je vous dirais, puis pour le bénéfice des auditeurs, c'est écrit dans les sur les sites web ou en tout cas peu importe que les chanterelles ça se garde au réfrigérateur à peu près 3-4 jours. Mais moi je vous dirais par expérience qu'on peut très bien garder les chanterelles facilement une semaine puis même des fois 2 semaines quand on les a recouverts de papier du papier essuie-tout. Et les chanterelles restent là et elles restent vraiment en bonne forme avec leur odeur si caractéristique. Alors, au frigo, là, ça se garde facilement une semaine.
Donc, on n'est pas obligé de se presser. On peut en manger à satiété. Oui. Et puis, ensuite, s'il en reste, bien naturellement, là, on fait quoi?
Ben, s'il en reste... Il y a deux façons de les conserver. La première façon, c'est qu'on peut les déshydrater. Moi, je vous dirais que déshydrater, c'est une formule que je ne privilégie pas parce que je trouve que les champignons, quand ils sont déshydratés, puis qu'ensuite on les conserve dans des sacs hermétiques ou dans des grands pots, parce que les chanterelles, c'est quand même relativement gros comme champignons. Quand on les réhydrate, c'est toujours réhydraté 30 minutes dans de l'eau tiède, puis ensuite on égoutte et on va les recuisiner. Moi, je trouve qu'elles ont une texture un peu trop caoutchouteuse et moi, ça me plaît moins. De toute façon, je vous dirais honnêtement que les champignons, la meilleure façon de les manger, c'est tout le temps frais, là, vous le savez par expérience aussi, parce que quand on les congèle, quand on les réhydrate, ils n'ont pas tout à fait le même goût, ils n'ont pas tout à fait la même texture. Mais c'est sûr que quand on en a trop, puis qu'on veut conserver le parfum pour faire quelque chose durant l'hiver, ben on va sacrifier un petit peu de la texture. Puis ça, oui. vous l'avez dit un peu au début.
Oui, parce que c'est ça, justement, déshydratation, comme vous le dites, vous n'aimez pas beaucoup ça, mais est-ce que c'est un champignon qui se congèle?
Oui, il se congèle. Il y a deux façons, en fin de compte, Parce que pour le congeler, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'il faut absolument le nettoyer et... on recommande aussi de le laver. Je cueille des chanterelles à la tonne de ce temps-là. Là, je ne veux pas écœurer le peuple qui a vécu des sécheresses, mais il y a des petits amis qui vont passer sur nos chanterelles et qui s'appellent des limaces. Ils vont laisser leur traînée gluante qui va sécher, mais les limaces qui consomment également les chanterelles, qui les adorent, vont laisser leur fiente sur la chanterelle. Alors, moi, j'aime pas consommer ces fientes-là, qui sont comme des traînées noires, très fines, là, déposées comme en boudin. Alors, moi, ce que je fais, on les nettoie. Parce qu'il y a souvent des feuilles séchées, il y a des aiguilles, il y a de la végétation, puis souvent, il y a des particules de sol, il y a des particules de sable. Et moi, ce que je fais, je les nettoie très rapidement dans l'évier avec de l'eau le plus froide possible. Puis on les brasse et on les laisse égoutter. Puis ensuite, pour enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur, mais je devrais dire oui parce que les chanterelles, c'est un peu comme des éponges, ils absorbent de l'eau très rapidement. J'utilise l'essoreuse à salade. Et puis après, ce qu'on recommande, c'est de les plonger dans de l'eau salée avec un peu de vinaigre pendant 2 à 5 minutes. Alors, on appelle ça l'étape du blanchiment.
Ah, OK.
Et après ça, Et après ça, on les met très rapidement. On enlève le supplément d'eau, là, encore une fois. Puis là, ben, on les congèle tout de suite dans des sacs de congélation.
Donc, on ne les fait pas sauter au beurre ou rien de ça. Là.
Bon, j'ai déjà utilisé cette méthode-là parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, moi, c'est ma meilleure méthode de conservation. Je les coupais d'ange, je les faisais... Je leur faisais, entre guillemets, cracher l'eau parce qu'on appelle ça
les faire suer. Hein?
Ouais. Un peu dans une poêle et je les plaçais très rapidement avec cette eau de végétation-là dans des sacs à congélation. Ça, je l'ai fait peut-être 2 années, puis je ne suis pas satisfait de cette façon-là.
De cette méthode-là. Monsieur Larivière, le temps file rapidement. Oui. Si on veut plus d'informations, là, comment est-ce qu'on ferait pour vous rejoindre, pour avoir plus d'infos?
Écoutez, moi je suis sur Facebook et on peut me rejoindre aussi par mon site web naturat.ca. Et on peut me poser ce genre de questions-là. Puis je vous dirais que mon livre, la réédition de mon livre Champignons s'en vient dans 2 semaines à peu près.
Oh là là,
et
oui.
J'ai beaucoup d'informations avec des recettes, avec les chanterelles, les crèmes de champignons que j'adore. Et on peut faire une très bonne crème de chanterelles d'ailleurs avec le surplus de nos cueillettes. C'est extraordinaire. Ça, c'est garanti.
On c'est du garanti à s'en lécher les doigts, comme l'expression dirait. Et puis nous, ben naturellement, sur ça se conclut la chronique, parce qu'on sait qu'on est quand même limité dans le temps. Mais rejoignez-nous la semaine prochaine et n'oubliez pas les mercredis balado-diffusion avec M. Larivière. M. Larivière est avec nous à tous les mercredis. Donc là-dessus, moi je vous souhaite bonne cueillette et bonne semaine, M. Larivière.
Oui, bonne semaine et à bientôt.
Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Tout le monde aime le camping. Le réveil matin remplacé par le chant des oiseaux. Les après-midi au bout du quai, les pieds dans l'eau. Les soirées partagées autour du feu. Les maringouins, le poêle au propane qui démarre pas. La tente qui fuit, le matelas qui dégonfle. L'eau trop froide. OK, on peut rien faire pour l'eau trop froide. Mais pour le reste, il y a ProNature, Rouyn-Noranda.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
Un commercial Simplement plein air.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.